Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui, en ce lendemain d'élection, Dave Noël, dans sa chronique « Les actualités de l'histoire », explique pourquoi François Legault a raison de parler de l'élection de 2002 comme une élection historique quant au nombre de femmes au Parlement. Il remet ensuite en perspective le taux de participation d'hier, 10 ans après le printemps érable. Le sursaut démocratique observé à l'époque apparaît comme un faux espoir. Enfin, il explore les quelques victoires écrasantes du passé pour les comparer à celles de François Legault d'hier. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Distorsion du mode électoral uninominal à un tour. Penses-tu qu'on va avoir une grosse réforme?
Ben non. Monsieur Legault, malgré la distorsion qui est critiquée, qui est exprimée de peu partout là aujourd'hui.
Et qui est visible, mettons...
À l'œil nu.
Fortement. C'est qu'il crève les yeux, voilà, c'est ça que je cherchais, ça crève les yeux.
Exactement. Alors écoute, M. Legault a fermé à double tour et pour rappeler donc aux gens, avec les résultats du vote exprimé lundi, ben, la CAQ a 90 sièges avec 41% des voix, là, presque 42 si on arrondit. Le PLQ avec Dominique Anglade, 21 sièges, à peu près 15%. À peu près 15% du suffrage, Québec solidaire a seulement 11 députés. Le Parti québécois a 15% aussi, mais n'a que 3 députés. Et le Parti conservateur, à 13%, a 0 députés. Bon, alors c'est sûr que là, on entend beaucoup, notamment les conservateurs, mais aussi les sympathisants péquistes et d'autres formations, qui disent, ben coudonc, est-ce que mon vote vaut quelque chose puisque malgré là, un assez fort pourcentage de votes exprimés, il n'y a pas de, par exemple pour les conservateurs, il n'y a même pas un seul représentant du parti qui va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Éric Duhaime, on le sait, a perdu dans Chauveau contre Sylvain Lévesque et dans Beauce-Nord et Beauce-Sud, ça a été très serré, mais finalement, par quelques centaines de voix là, des deux bords, ce sont les caquistes sortants qui ont été réélus. Bref, M. Legault a été questionné à son point de presse donc de lendemain de la soirée électorale, comme le veut la tradition. Il est allé sur l'île d'Orléans.
Il est allé loin.
Oui, il est allé loin. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi. Cette affaire-là.
Oui, il cherche dans ce temps-là. Je me rappelle qu'en 2018 aussi, il avait été...
Au Musée de la Civilisation, non?
Ouais, c'est ça, au parc, c'était dans un parc. En tout cas, je sais qu'on dirait qu'on cherche à avoir une belle image derrière M. Legault, une espèce de beau panorama. Alors là, c'était sur l'île d'Orléans, et puis là, la question lui était posée. Et ce qui est drôle, c'est qu'il dit, que durant la campagne, il s'est engagé à ne pas ouvrir le débat sur le mode de scrutin, et que donc, il va respecter ses engagements.
Est-ce que cette promesse-là vaut plus que la promesse de réformer le mode de scrutin? Faites solennellement 2018.
Oui, c'est ça exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est ça qui est ironique. C'est que avant la campagne électorale de 2018, il s'était engagé avec les autres partis d'opposition. Puis finalement, bon, il n'a pas tenu cet engagement-là. La seule chose
et d'ailleurs, Rémi, on a l'extrait. C'est vraiment incroyable parce qu'il parle de cynisme. Il dit de la nécessité d'écouter les citoyens. On peut écouter l'extrait.
Oui, écoutons ça.
On a besoin que le plus de personnes possibles travaillent ensemble. Je pense que le mode de scrutin proportionnel mixte aide justement à ce qu'on travaille davantage ensemble, que ce soit possible de le faire, qu'il n'y ait pas un gouvernement qui ait été élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Donc, moi, je pense que ça va dans le sens, à long terme, du mieux-être des citoyens québécois. Nous, on est prêts, puis on va faire le changement. C'est important de le faire. C'est important de ne pas regarder les gains à court terme. Il y a une pression populaire qui n'était peut-être pas là il y a 10 ans, il y a 20 ans. De plus en plus, les citoyens sont informés. De plus en plus, les citoyens veulent participer, même s'ils s'intéressent moins entre les élections à la politique. Il reste que quand même, les gens veulent être représentés, veulent participer aux décisions. Puis c'est une façon de le faire. Donc, moi, je pense qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouvait en difficulté à moyen terme.
Oui, alors, c'était François Legault en 2018 lorsqu'il a signé le pacte tripartite de trois partis là, pour le changement du mode de scrutin. Et il disait qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là, ben, il se trouverait en difficulté à moyen terme, Rémi.
Ouais, et pourtant, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils ont déposé seulement un projet de loi avec Sonia Lebel, puis après ça, ils ont laissé ça sur les tablettes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si on utilise ce projet de loi-là, parce que des modes de scrutin là, à proportionnel, il en existe mille et une sortes, mille et une formules. Puis la formule qui avait été arrêtée pour le projet de loi 39, si on met les résultats non seulement d'hier, mais aussi de 2018 dedans, bien, la CAQ est quand même majoritaire. Donc, c'est un mode de scrutin qui ne fait pas nécessairement des gouvernements fragiles.
Oui, c'est ça exactement, parce que la crainte de certaines personnes, si, par exemple, c'est uniquement un scrutin proportionnel, c'est de se retrouver avec des gouvernements minoritaires à répétition. Puis là, on dit, ben là, c'est dur de gouverner. Comment est-ce possible pour l'État, par exemple, d'apporter des changements en profondeur s'il n'y a pas suffisamment, donc, s'il n'y a pas une force suffisante là, qui gouverne. Mm. Mais je prends, par exemple, le mode qui est un peu comme calqué selon ce qui était présenté dans le projet de loi de Sonia Lebel, mais légèrement modifié par le groupe ou le mouvement Démocratie Nouvelle de Jean-Pierre Charbonneau. Et la CAQ aurait quand même eu 67 sièges, mais la grosse différence, c'est que bon, Québec solidaire en aurait eu 16, le PQ en aurait eu 14, imagine-toi donc, PLQ 14 et le Parti conservateur 14. Donc, ça aurait complètement changer la dynamique. Moi, je comprends évidemment Éric Duhem d'être frustré par rapport à ça, les péquistes aussi. Dans le cas d'Éric Duhem, c'est quand même particulier parce que tu sais que c'est à cause que Claire Samson avait choisi de joindre la formation que Éric Duhem pouvait tenir, par exemple, un point de presse à l'Assemblée nationale.
Oui. Un parlementaire qui invite.
C'est ça, exactement. Mmh. Mais là, sans aucun député donc élu, il peut même pas faire un point de presse à l'Assemblée nationale.
Ce qui va l'amener à faire une cour en règle à tous les déçus de tous les partis. N'importe qui. Moi, je pense qu'il est prêt à prendre un transfuge, même de Québec solidaire. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose comme un élu.
Oui. Alors, tout ça pour dire que donc, c'est sûr que, tu sais, moi, je m'étais rangé un peu aussi à l'argument de la stabilité dans le passé, mais on voit là, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et,
oui, mais Rémi, si on est capable d'avoir la stabilité et la représentation, ben c'est parfait. Alors, il s'agit de jouer avec le modèle, puis le modèle qui est proposé dans le projet de loi 39, c'est une bonne base. Au moins, la CAQ aura fait avancer ce débat-là qui traînait depuis des années. Espérons là, que ça sera repris.
Voilà.
Le PLQ maintenant? Les nouvelles sont bonnes parce qu'ils gardent l'opposition officielle, mais ça cache et ça occulte de mauvaises nouvelles.
Ah, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais outre le fait qu'ils sont restés à l'opposition officielle, ils ont quand même perdu des sièges. Mais ils en ont perdu quand même, je pense, moins que ce qu'on pensait là, peut-être là, à quelques jours du vote. Mais bon, il y a eu des pertes, notamment par exemple Verdun, où Isabelle Melançon a vraiment tout fait, déployer beaucoup d'énergie pour conserver son poste, mais sans succès. Ils ont perdu, bon, par exemple, Maurice Richard, ce type de circonscription-là. Mais en plus, c'est que comme le suffrage exprimé a diminué de façon importante, ben ils vont recevoir moins d'argent en raison là, de l'appui qui a été exprimé. Notre collègue Patrick Bellerose regardait ça, c'est 10% de moins qu'ils vont recevoir donc en revenus par rapport à cette équation-là, là, du montant de 1,70-1,71 en fait, qui est versé par vote exprimé. Mais en plus de ça aussi, et ça c'est catastrophique, on se disait que avoir les chiffres dans les circonscriptions d'appui, ouais, on voyait que à bien des endroits, il n'y avait pas 15%. Quand tu n'as pas 15%, le candidat perd son dépôt financier. Alors, il n'y a pas de remboursement de son dépôt pour ses dépenses électorales. Et le nombre de circonscriptions où il n'y a pas le 15%, écoute, c'est 87.
Ouch!
Oh, alors ça, ça fait très mal. En 2018, tu sais, déjà, on disait que c'était épouvantable, le score du Parti libéral. Ils avaient eu 25% du suffrage en 2018. Et à ce moment-là, c'est une trentaine de candidats qui n'avaient pas récupéré leur dépôt. Mais là, 87, imagine, c'est vraiment catastrophique parce que, tu sais, déjà, on l'a vu à quel point ils ont eu du mal à recruter. Il a fallu que des employés de la garde rapprochée de Dominique Anglade présentent leur candidature dans des comtés là, comme à Québec parce qu'il n'y avait pas de candidat. Mais ça, c'est...
J'ai cru voir hier que Julie White, par exemple, dans Jean Talon, un comté qui est un château fort libéral, là, est arrivée comme quatrième, si je ne m'abuse.
Oui, et c'est hallucinant de voir à quel point il y a beaucoup de circonscriptions où il termine cinquième, le Parti libéral du Québec. Et d'ailleurs, je veux juste souligner parce que ça m'a vraiment fait sourire. J'ai vu mon chef des régies accorder une entrevue à Mario Dumont à LCN plus tôt dans la journée.
Oui.
Et M. Dumont faisait remarquer là ces statistiques-là désolantes pour le PLQ dans plusieurs régions du Québec. Et mon chef des régies a répondu en disant que Montréal aussi, c'est une région. C'est l'argument, là, le dernier argument qu'ils peuvent servir.
Oui, c'est comme genre le dernier argument, effectivement. Tu veux souligner que le clan des journalistes et chroniqueurs s'agrandit à la CAQ?
Oui, ben oui.
C'est un parti de journalistes ou non?
En terminant, c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'ils pourraient faire un cercle de presse. Moi, quand j'étais jeune journaliste au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Le cercle de presse du Saguenay, mesdames et messieurs.
Oui, c'est ça.
De la CAQ.
C'était les journalistes de tous les médias de la région qui étaient regroupés pour recevoir, par exemple, une personnalité qui était de passage dans la région. Mais donc, c'est ça. Écoute, on sait qu'il y avait déjà plusieurs chroniqueurs, journalistes au sein des élus de la CAQ, comme Mario Asselin, Sylvain Lévesque, Caroline Proulx qui a fait de la télévision, Nathalie Roy, Mathieu Lacombe. Et là, il faut rajouter à ça, d'un coup, Karianne Bourassa, qui a été élu pour la CAQ dans Charlevoix. Il y a Pascal Derry, également ancienne journaliste. Et là, il faut rajouter Bernard Drainville, Martine Biron.
La FPJQ au pouvoir, Rémi.
Oui, c'est ça exactement. Écoute, je me rappelle d'avoir parlé avec un de nos anciens collègues qui a fait le saut en politique active et qui me disait, il y a deux choses. C'est sûr que les partis aiment le fait que les journalistes ou des animateurs ou chroniqueurs ont une facilité à communiquer. Donc, on présume qu'ils ont moins tendance à se mettre les pieds dans les plats parce qu'ils sont un peu plus habiles avec la communication, ces choses-là. Ils sont peut-être plus clairs pour exprimer des messages clairs aux citoyens. Mais l'autre chose, et ça, j'avoue que c'est vrai, il me disait, les journalistes, on est habitués de faire un travail d'analyse, là, de documents et de synthétiser beaucoup d'informations. On est capable, de, dans le fond, d'absorber beaucoup d'informations dans des documents, des projets de loi, des choses comme ça, des rapports annuels, les budgets, etc. Et après ça, être capable de synthétiser, voir qu'est-ce qui est important. Et ça, ben, on me dit que c'est une qualité qui est recherchée dans les candidats. Il y a la façon de s'exprimer, mais aussi le fait d'être habile pour... aller, par exemple, saisir des choses des fois un peu complexes et être capable de voir qu'est-ce qui est important là-dedans. Alors, à la CAQ, ils auront donc beaucoup d'expertise en cette matière-là.
Merci beaucoup, Rémi. Et puis, demain, on aura recours à ton expertise encore une fois. Tu viendras nous expliquer des choses compliquées. Salut, Rémi. À demain.
Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Et bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir. Auteur, entre autres, de Montcalm, général américain chez Boréal. Il est avec nous tous les mardis, parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Tous les mardis, oui, mais on n'est pas toujours en lendemain d'élection, hein, Dave?
Et c'est le cas aujourd'hui.
En effet, Antoine, les lendemains d'élection, c'est l'occasion de faire les bilans, notamment sur le taux de participation. Au fond, cette élection-ci, on a atteint un taux de 66,05 de participation selon les données préliminaires du directeur général des élections.
C'est assez poche.
C'est moins élevé qu'en 2018. En 2018, on avait 66,45. Donc, on est quelques points de pourcentage, quelques dixièmes de points en dessous.
Oui.
Ça, c'est intéressant parce que si on se rappelle, en 2012, lors du printemps érable, on avait eu une espèce de petite poussée qui avait porté le taux de participation à 74,6. Donc, à ce moment-là, on disait souvent qu'il y avait une nouvelle génération qui avait été formée. Des jeunes politisés. Mais 10 ans après le printemps érable, donc on tombe vraiment assez bas, donc presque 10% plus bas que 10 points de pourcentage par rapport à ce qu'on avait.
Et le parti qui compte sur le vote des jeunes n'a pas pu compter sur lui hier.
Non, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est intéressant.
C'est-à-dire Québec solidaire, évidemment.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'on avait eu un taux de vote par anticipation record cette année de 24%. Donc, il y a à peu près un Québécois sur 4 qui est allé voter par anticipation. Et malgré ça, c'est seulement le pourcentage de vote reste le même par rapport à 2018. Et ça, j'en avais parlé avec Éric Montigny, le professeur de sciences politiques, qui lui me disait que le vote par anticipation, c'est devenu plus un transfert de vote que d'autres choses. C'est des gens qui seraient allés voter de toute façon, qui décident de régler ça le plus vite possible et ils sont débarrassés en quelque sorte. Donc, c'est vraiment pas un signe de montée du vote le jour du scrutin.
Mm-hmm.
Le vote, c'est ça donc...
Moi, j'aime pas tellement le vote par anticipation.
Pourquoi?
Ben, j'aime l'idée qu'on se décide tous la même journée.
Ouais.
C'est rendu là, qu'il y a tellement de jours où on peut voter. Pourquoi pas ouvrir les pôles pendant, je sais pas moi, pendant toute la durée de l'élection.
On pourrait revenir au système du...
Mais c'est parce qu'on devrait voter avec la même information. Imagine s'il était arrivé quelque chose dans la dernière semaine et que les gens se sont déjà prononcés, ça aurait pu être problématique. C'est vraiment quelque chose de majeur.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, en temps de COVID, je peux te dire que c'est quand même pratique d'avoir une semaine à l'avance pour voter. Il y avait des gens qui ont attendu le jour même. Ma sœur pourrait en témoigner, elle a attrapé la COVID et elle n'a pas pu aller voter. Elle a dû faire ça avec une trousse que quelqu'un devait aller chercher. Et le directeur du scrutin de sa circonscription, et après ça, le remplir à la maison, le renvoyer avant 8 heures, donc c'était assez compliqué.
Okay.
Et pour ça, au moins, c'était pratique. Mais sinon, avec l'extension du nombre de jours pour aller voter, on revient quasiment au système du 19e siècle où on votait tant qu'il y avait du monde et quand il y avait un certain délai de temps où il y avait personne qui se présentait, on fermait le bureau de vote. Donc, on pourrait quasiment revenir à cette époque-là où on votait pendant une semaine. Donc, ce serait à y penser. Ouais. Pour ce qui est du taux de participation depuis 1867, on voit vraiment que... En fait, il faut commencer à compter plus à partir de 1931, parce qu'avant 1931, on avait beaucoup de votes par acclamation. D'ailleurs, en 1919, il y a 45 des 81 députés qui avaient été élus sans opposition.
Ah oui.
Ils avaient fait baisser le taux de vote à 27 %. Ça, c'est le taux le taux plancher qu'on a atteint. Mais donc, depuis 1931, on voit vraiment que le vote est beaucoup influencé par la motivation des électeurs, notamment dans les années 70, la montée du mouvement souverainiste. C'est là qu'on a eu les plus fortes proportions, donc de 70 à 81.
Il n'y a rien comme une question existentielle pour faire participer les gens. Alors, rester ou non dans le Canada, c'était existentiel.
Tout à fait. Et même si au départ, Robert Bourassa remportait des grandes majorités, la présence du mouvement souverainiste qui était en montée faisait en sorte que le taux général montait. Et dans les années 70, on a toujours dépassé la barre des 80 % avec un sommet en 1976 de 85,27 avec l'élection de René Lévesque. Et la dernière fois qu'on
a franchi... Participation électorale de 85 %,
c'est énorme.
C'est très, très fort.
On s'approche presque au référendum.
Oui,
pour plusieurs,
de 95.
Oui, c'est ça, de 95. Et d'ailleurs, la dernière fois où on a atteint le plateau des 80 %, c'était en 94 avec 81,58.
Ah oui.
Évidemment, Jacques Parizeau du Parti québécois avait été élu avec la promesse de tenir un référendum sur l'indépendance dans le premier mandat, ce qui explique que pour plusieurs, cette élection-là était pratiquement une élection référendaire.
Mm.
Ça avait vraiment dopé le vote, si on veut.
Oui.
Et ce que moi j'ai noté par rapport à la campagne, aux résultats d'hier, c'est qu'on voit que notre taux de participation se rapproche de plus en plus de celui de la scène fédérale. Quand on regarde pour l'ensemble du Canada, en 2011, oui, il était de 61 %. Il est monté à 67 en 2019 et il est retombé à 62 % l'année dernière, en 2021. Donc, 62 % au fédéral, 66 sur la scène québécoise. Donc, on est vraiment dans les mêmes eaux. Et par contre, on est quand même beaucoup plus élevé qu'en Ontario. Cet été, on a eu un taux de participation de 43,52 %, ce qui était assez inquiétant, disons, de ce côté-là. Et aussi, on peut peut-être écouter un moment du discours d'hier de victoire de François Legault, qui annonçait un élément qui se démarque des autres campagnes.
C'est une victoire qui est historique parce que ce soir, je suis tellement fier de ça, on a fait élire le plus grand nombre de femmes de toute l'histoire du Québec! Wow! Quelle belle gang! Ça veut dire que le travail commence, par exemple, pour le deuxième mandat.
Ben oui, un record d'élection de femmes à l'Assemblée nationale.
Oui, donc...
Le pourcentage exact?
On est à 46,4%.
On est vraiment en zone paritaire, là.
Oui. Par contre, si ce n'était du Parti libéral du Québec, on n'aurait pas dépassé le sommet atteint en 2018.
Tu veux dire c'est grâce au Parti libéral du Québec?
Oui, grâce au Parti libéral, parce que 65 % des élus du Parti libéral sont des femmes, par rapport à 45 pour la CAQ. 30 % seulement pour Québec solidaire, ce qui est assez frappant pour un parti qui est résolument féministe, et 0 % pour le PQ. Évidemment, les trois élus sont des hommes. C'est ça, on parle d'un sommet historique, M. Legault parle d'un sommet historique, mais en 2018, on était à 42 %, donc c'est une hausse de 4 points de pourcentage, ce qui n'est pas énorme, et c'est seulement 3 députés femmes de plus que par rapport à la dernière élection. Donc, quand même, on se rapproche de... On est dans la zone paritaire qui est définie à 40 %, mais on se rapproche de la vraie parité à 50 tranquillement. Et aussi, sur un autre plan, si on parle d'histoire, c'est sûr, hier soir, on a eu la pire défaite électorale du Parti libéral, la pire défaite électorale du Parti québécois. On a eu le premier recul électoral de l'histoire de Québec solidaire et la plus grande performance du Parti conservateur du Québec, Nouvelle Vague. qui est revenu, parce que
c'est pas celui de Chameleon Wood dont tu nous as parlé de 1931. Là.
Non, même s'il y a certains points communs, on est quand même assez loin. Pas de politique.
C'était le slogan, je pense, qui était commun, commun. Hein?
C'est ça, oui. Et c'est ça, il n'y a pas de politique de retour à la terre.
Lui, Camille...
avec M. Duhaime. Chameleon Wood.
Chameleon Wood, lui, c'était maître chez nous, soyons maîtres chez nous.
Hein, oui, c'était dans les mêmes eaux que le slogan de qu'on associe beaucoup à Jean Lesage, mais en fait, cette expression-là était dans l'air à l'époque et un peu tout le monde se l'appropriait.
Je l'ai dit à Éric Duhaime quand je l'ai interviewé, il était vraiment surpris et interloqué parce que lui, c'était libre chez nous.
Oui. Et on sait aussi qu'il s'est revendiqué de la mémoire de Chauveau, l'ancien premier ministre conservateur. Donc, dans un prochain épisode, on ira voir les similitudes entre les deux.
Oui, s'il avait été élu, ça aurait été mieux.
Si on avait ramené Chauveau, tu veux dire?
Mais s'il avait été élu, ça aurait été plus pertinent de faire le lien entre les deux. Tu sais, parce que s'il avait été élu dans Chauveau, lui a dit que c'était le premier ministre du Québec et c'était un conservateur.
Mais quand même, il...
Donc, lui-même se situait dans une filiation historique.
En même temps, Duhaime a annoncé hier qu'il allait rester pour 10 ans. Donc, on peut en reparler quand même, surtout qu'il va être très présent.
Parfait. Alors, c'est un rendez-vous, Dave.
Oui. Et en terminant, c'est ça, on parle d'histoire. La domination en termes de proportion de sièges de la CAQ de François Legault. Donc, avec 90 députés, il a 72 % des sièges, ce qu'il place au quatrième rang de l'histoire en termes de domination au Salon Bleu. Le record est détenu par Robert Bourassa. En 73, il avait fait élire 102 députés, ce qui représentait à l'époque 93 % des sièges.
Et Robert Bourassa... 102 sur 110.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et Robert Bourassa occupe les trois places du podium, en fait.
Ah bon?
Il est à la deuxième et en troisième place. En 85, il a 99 députés, ce qui représente 81 % des sièges. Et en 89, lors de sa dernière élection, il a 92 députés, ce qui représente 74 %. Donc, on compare souvent François Legault à Robert Bourassa dans le sens de... que c'est un politicien qui est vraiment sur la ligne. Il incarne vraiment ce que le Québécois moyen désire, inconsciemment ou consciemment.
Centriste. Extrême centre, comme François Legault l'a déjà dit à son propre propos.
Oui, et donc François Legault est juste derrière Robert Bourassa et devant Maurice Duplessis, qui termine cinquième en 48 avec 89 % des sièges au Salon Vert à l'époque.
Ah, Legault a battu?
Oui.
Duplessis.
Oui. Il est seulement devancé par les trois Robert Bourassa.
Ça nous fait un bon titre de segment, ça.
Tout à fait. C'est bon.
On peut écouter Robert Bourassa en 1985, maintenant.
Qui peut mieux relever ce défi, mes chers amis, que le Parti libéral qui a l'expérience de la croissance économique, qui a toujours été fidèle à ses objectifs?
Donc, c'était Robert Bourassa en 1985 qui parle du Parti de l'économie, hein? Oui. C'est vraiment un thème de François Legault, ça aussi. Vraiment, l'affirmation d'Éric Bédard, l'historien, qui a été, lui, rédacteur de discours pour François Legault, selon lequel le politicien auquel François Legault ressemble le plus, c'est Robert Bourassa. Ça, il me semble que ça se confirme, là.
Oui, tout à fait. Mais je vais quand même ajouter un petit bémol. Moi, je considère toujours que Daniel Johnson, père, est le modèle qui ressemble le plus à François Legault. Mais on va le voir dans le deuxième mandat, comment ça va se concrétiser.
Cube Radio.